Radio Prague, les informations.
Le déficit du système des retraites continue à augmenter. Les cendres de Václav Havel seront déposées dans le caveau de famille au début de la nouvelle année. Résultat d'une enquête sur l'utilité des églises. Le déficit du système de retraite en République tchèque a atteint en novembre dernier 39,1 milliards de couronnes, 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire 4,9 milliards de couronnes de plus que le déficit du mois d'octobre. C'est le plus grand déficit atteint depuis 2009. Avant cette date, le système de retraite en République tchèque était excédentaire. L'urne avec les cendres de Václav Havel ne sera pas déposée dans le caveau de la famille de l'ancien président encore avant la fin d'année comme prévu. Selon les dernières informations, la cérémonie n'aura lieu qu'au seuil de la nouvelle année. Dagmar Havlova, veuve du président défunt, a remercié ce mardi tous ceux qui partageaient son deuil. Selon une enquête réalisée par l'agence STEM, 60% des personnes interrogées ne considèrent pas les églises comme les institutions utiles. Par contre, 40% des personnes ayant participé à cette enquête estiment que les églises sont utiles. En 2010, ils ont été encore 42% à partager cette opinion. Elle est aussi plus fréquente chez les croyants, notamment chez les membres de l'Église catholique romaine. Mais les églises sont considérées comme utiles aussi par 25% des personnes qui se déclarent sans confession. Le président tchèque Václav Klaus a signé un ensemble de 70 amendements de loi composant la réforme du système fiscal tchèque, la réforme qui est liée à la création d'un seul centre de perception fiscale, abolit le concept du salaire super brut et modifie la loi sur les loteries. Une information de l'attaché de presse de la présidence de la République tchèque, Radim Ochvat. La société d'État gestion des chemins de fer tchèque licenciera 500 employés dans l'administration. Cette mesure sera prise dans le cadre de la réorganisation des bureaux régionaux de la société. Une information de l'attaché de presse de la société Pavel Hala. Selon l'édition de ce mardi du quotidien Lidové Noviny, le ministre de la Justice Jiří Pospíšil a appelé la police à ouvrir une enquête sur les condoléances envoyées par le Parti communiste tchèque suite au décès du dirigeant coréen Kim Jong-il. La semaine dernière, le président du KSČM, Vojtěch Filip, avait rendu hommage au dictateur coréen en indiquant qu'il s'était sacrifié pour le bonheur du peuple coréen. Au cours des dernières décennies, le nombre d'enfants tchèques diminue. Il y a 30 ans, il y avait sur le territoire de la République tchèque 2,41 millions d'enfants de moins de 15 ans. Cette année, leur nombre a été inférieur de 880 000. C'est une diminution de près de 30%. Le nombre d'habitants total a pourtant augmenté. C'est un des résultats du recensement de la population réalisé en République tchèque en mars dernier. Météo. Comme lundi, c'est un temps très couvert qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce mardi, jour de la fête des Jeannetta, Jeannette en français. Quelques faibles averses à caractère local ont été attendues. Les températures ont été supérieures aux normales saisonnières et ont varié entre 3 et 8 degrés pour les maximales. Mercredi, le ciel en Tchéquie sera couvert à variable et il bruinera par endroits. Les températures maximales se situeront entre 4 et 8 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, quelques jours après les obsèques de Václav Havel, revenons encore une fois sur sa personnalité sous l'angle de sa défense continue des droits de l'homme. Nous en avons parlé avec la directrice du Centre Birman à Prague. Et puis musique avec la sortie en France d'un petit ouvrage consacré au compositeur Leoš Janáček. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'entretien réalisé avec une musicologue française, auteure de ce mode d'emploi. Bonne écoute de ce programme. Grande figure de la dissidence anticommuniste, Václav Havel a été souvent surnommé « avocat des droits de l'homme ». Président et ex-président, il continuait à s'engager en faveur du respect des droits de l'homme à Cuba, en Biélorussie, en Russie ou encore en Chine. Quelques jours seulement avant son décès, il a appelé l'opposition russe à s'unir contre le pouvoir en place après les élections controversées du 4 décembre. Tout aussi inlassablement, Václav Havel encourageait le processus de démocratisation en Birmanie, pays qui connaît depuis 1962 une succession de dictatures militaires. À l'heure où la Ligue nationale pour la démocratie, dirigée par la chef de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi, revient dans la légalité après sa dissolution en 2010, Magdalena Hrozenkova s'est entretenue avec la directrice du centre birman de Prague, Sabe Soe. Tout d'abord, elle a exprimé sa tristesse suite au décès de Václav Havel.
Monsieur Havel soutenait nos efforts depuis la formation du mouvement démocratique en Birmanie. Son soutien a été permanent et intense. Son départ représente une grande perte pour nous, car nous le percevions non seulement comme un dirigeant politique, mais surtout comme un ami. En 1991, Václav Havel a soutenu Aung San Suu Kyi pour le prix Nobel de la paix. Lui aussi a été nominé cette année-là, mais il a préféré soutenir la nomination d'Aung San Suu Kyi en disant que la Birmanie avait besoin de cette récompense plus que la Tchécoslovaquie, déjà démocratique. Grâce à cela, le monde entier a commencé à s'intéresser davantage à la situation en Birmanie.
Sabe Soe est arrivée à Prague en tant que boursière en 1987, un an avant la violente répression du soulèvement populaire dans son pays qui a fait quelque 3000 morts. Elle se souvient.
Après cette expérience-là, je ne sentais pas beaucoup d'espoir au début de la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Mais j'ai été très agréablement surprise par la suite des événements de 1989. Cette évolution de la situation en Tchécoslovaquie et la personnalité de Václav Havel m'ont donné du courage et de l'optimisme. Du coup, on a vu qu'il était vraiment possible que de simples citoyens renversent un régime totalitaire.
Václav Havel soulevait le cas de la Birmanie au cours des conférences, dans des médias internationaux et même en 2005 au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Encouragée par son action, la communauté birmane en République tchèque a fondé en 2006 le centre birman de Prague. On écoute encore Sabe Soe au micro de Magdalena Hrozenkova.
Nos activités visent à diffuser des informations sur la Birmanie en République tchèque et aussi à transmettre aux activistes et aux organisations birmanes d'aide aux réfugiés des expériences de la transformation démocratique en République tchèque qui pourraient leur être utiles et qui pourraient contribuer à la reconstruction de la Birmanie. De même, nous collaborons avec les autorités tchèques dans le domaine de l'intégration des réfugiés birmans. Notre travail, c'est d'expliquer aux organisations et institutions tchèques qui les prennent en charge de quel milieu ils viennent et ce dont ils auraient besoin. Nous essayons de faciliter leur intégration sur le marché du travail et dans les écoles tchèques.
Václav Havel avait, paraît-il, souhaité rencontrer la chef de file de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi, qui a passé une partie de sa vie en prison ou en résidence surveillée pour lui offrir une rose. Avant que cette rencontre ne puisse se réaliser, la dame de Rangoon a envoyé un bouquet de fleurs à Prague aux obsèques de celui qui s'était tant réjoui de sa libération en novembre 2010. Plus d'informations sur le centre birman de Prague au www.burma-o-center.org. Yana Tchek, Opéra Mode d'emploi, est un ouvrage sorti en 2011 aux éditions L'Avant-Scène Opéra. Son auteur, la musicologue française Marianne Fripia, y compile de manière exhaustive et passionnante la vie et l'œuvre de ce grand compositeur tchèque du XXe siècle. Extrait de cet entretien dont vous pourrez retrouver l'intégralité dès samedi dans notre émission spéciale de la Saint-Sylvestre.
L'ouvrage est né après une première collaboration. J'avais été invitée à écrire un article pour un numéro de l'Avant-Scène Opéra consacré à la Maison Morte. En fait, il faut savoir que cette maison d'édition, l'Avant-Scène, publie essentiellement des revues monothématiques consacrées à un opéra chaque fois. Et puis elle a commencé une nouvelle série qui s'appelle les modes d'emploi. Et donc j'ai commencé à collaborer avec la revue tout d'abord, puis l'éditeur a été satisfait de mon article et il m'a proposé ce Janáček dans la collection des modes d'emploi.
Alors pourquoi Janáček ? Alors c'est pour ça que c'est peut-être une petite forme de transition vers la personnalité de Janáček. On reviendra peut-être un petit peu sur son portrait, mais pourquoi vous particulièrement avez-vous aimé la musique de Janáček ? Quel est votre Janáček ?
Alors, difficile de répondre en étant concis. Janáček m'a passionnée pour plein de raisons. D'abord parce que sa musique, elle vous prend aux tripes, en fait, et c'est difficile de rester indifférent. C'est une musique qui est d'un contenu, d'une densité humaine qui spécifique. C'est pas comparable pour moi à l'opéra italien, par exemple, enfin un certain opéra italien. Donc j'ai été saisie par ce contenu dramatique, cette épaisseur psychologique de la musique. Et puis il y a une autre chose, c'est que j'avais commencé à travailler sur Janáček au conservatoire et que il y avait quelque chose d'absolument râlant dans le fait qu'on ne parvenait pas à obtenir les partitions, soit que il n'existait pas d'édition critique, soit qu'elles étaient difficiles à obtenir ou en langue allemande même. Et puis quand on écoutait les disques, on constatait qu'il y avait des milliers de coupures et que ça ne correspondait absolument pas à ce qui était écrit. Donc ça m'a fait enrager. Je me suis dit que c'était un parfait sujet d'étude et que j'avais envie de voir clair.
On dit souvent, en tout cas c'est comme ça qu'est perçu Janáček, que c'est compliqué, que c'est difficile d'approche, d'où peut-être ces simplifications également. Pourtant, justement, ces dernières années, et votre ouvrage en est un peu aussi, je pense, la preuve, en tout cas l'illustration, en France, en tout cas, on redécouvre Janáček. Enfin, il n'y avait pas, par exemple, l'an dernier, un mois ou disons sans qu'on lise un article sur telle mise en scène à tel endroit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on redécouvre tardivement l'œuvre de Janáček, ou alors est-ce le fruit finalement de vagues, de modes?
Je n'ai pas résolu cette question, je me la pose aussi. Qu'on dise que Janáček est compliqué, c'est une phrase que j'entends souvent en République tchèque, plus qu'ailleurs. Si vous demandez leur opinion aux Tchèques, ils vous diront qu'ils n'aiment pas Janáček, qu'ils préfèrent Dvořák ou Smetana. Enfin, c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre souvent. Je n'ai pas tellement entendu cette opinion-là en France, ou moins, disons. Pourtant, je pense que Janáček est terriblement compliqué si on veut entrer dans les détails. Alors, pourquoi est-il à la mode aujourd'hui ? Peut-être, je n'aurais pas de réponse complète, mais peut-être qu'un indice, ce serait qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à l'aspect théâtral dans l'opéra, et que Janáček est un des compositeurs les plus dramatiques. Donc, peut-être qu'il se prête mieux à cette vision de l'opéra qui tend à le rapprocher du drame. C'est comme ça que je l'expliquerais. Peut-être.
Voilà, on continue notre programme avec la deuxième partie de notre émission, avec la rubrique Panorama. Stanislas Pierre est aujourd'hui directeur de l'Institut français de Bucarest. Il a commencé sa carrière diplomatique en Tchécoslovaquie dans les années 1980 et il raconte ses souvenirs, notamment au contact de la dissidence tchécoslovaque dont la figure de proue était, vous le savez, Václav Havel, récemment décédé. Anne-Claire Veluier s'était entretenue avec Stanislas Pierret dans un entretien que nous rediffusons. Il avait été diffusé pour la première fois le 7 juin 2011.
Panorama.
Panorama.
Alors Stanislas Pierret, vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut français de Bucarest.
Mais vous avez commencé votre carrière diplomatique en République tchèque ou même en Tchécoslovaquie à l'époque. Mmh. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours?
Oui, effectivement, j'ai été en poste à Prague la première fois juste avant la révolution de velours. C'était en 87, je faisais mon service militaire comme attaché culturel. Et en fait, je me suis beaucoup plu. À l'époque, je sortais d'études de philosophie et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Et je me suis beaucoup plu, en fait, en République tchèque. J'ai beaucoup participé, je crois, à la vie culturelle. L'ambassadeur de l'époque, M. Humann, me demandait de pas d'infiltrer les réseaux, mais d'avoir des contacts, en fait, avec la dissidence, avec les courants alternatifs. Ce que je pouvais faire assez aisément, puisque j'étais jeune, j'avais un passeport de service, j'étais pas vraiment complètement diplomate, donc j'avais un peu cette liberté. Et une liberté dont j'ai pu profiter. Donc, en 87-88, un an avant la révolution de velours, eh bien, j'ai multiplié les contacts un peu partout avec des intellectuels, certains membres de la charte, mais aussi beaucoup d'artistes. Je connaissais beaucoup d'artistes dans le domaine des arts plastiques, puisque c'était mon tropisme. Je suis un petit peu peintre aussi, donc j'avais une inclination pour les arts visuels. Mais aussi, j'avais des contacts avec les acteurs. Et c'est vrai que cette période était extrêmement riche. C'est-à-dire que cette période est vraiment de la fin des années 80. Une période, on ne savait pas ce qui se passerait, bien sûr. On ne savait pas que le... Mais la société civile était en train de bouger énormément, dans tous les milieux. Et les artistes et les étudiants étaient présents.
On connaît bien en République tchèque l'épisode du petit déjeuner historique avec François Mitterrand, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'il y avait une volonté de la diplomatie française de développer ce type de contact.
Non, c'est clair. Alors, d'abord, moi, j'étais pas seul. Hein. J'ai succédé à Xavier Galmiche, qui a fait beaucoup aussi pour le dialogue avec les dissidents, hein, qui occupait le même poste que moi. Mais il n'était pas le seul, il y avait aussi Valérie Levitt, il y avait Marianne Cannavaggio, qui elle n'était pas diplomate, elle était professeure à l'école française de Prague. Il y avait Sylvie Germain. Et tous ces gens, en fait, formaient un petit noyau, un noyau dur de gens qui avaient des contacts vraiment assez proches avec la dissidente. D'ailleurs, Marianne Cannavaggio vivait avec un dissident, un philosophe de surcroît. Donc j'étais pas seul. Hein. Et alors c'est vrai que quand François Mitterrand est venu en visite, il avait exigé de pouvoir voir Havel. Et donc ça a été un enjeu très important de son voyage.
Est-ce que vous avez participé à la...
Oui, j'ai participé. J'ai pas participé au petit déjeuner même, mais j'ai participé bien sûr à la préparation du petit déjeuner avec Stanislas Mrozek, qui était le premier secrétaire, je crois, à l'ambassade. C'est-à-dire qu'on avait passer les massages à Peter Ruhl avec à plusieurs participants du petit déjeuner. Voilà. Et ce petit déjeuner, effectivement, est resté dans les mémoires. Hein.
Ouais. C'est l'événement, on va dire.
Oui, c'est un événement. C'est un événement qui a marqué. Non, mais qui a marqué et qui montre que, en fait, la France, contrairement à ce qu'on dit, en fait, à cette époque, était quand même assez engagée. Je veux dire, peut-être moins engagée que certaines chancelleries américaine, mais je pense qu'on a prouvé quand même certaines volontés de dialoguer avec les représentants de la société civile. À l'époque, c'était important. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup occupé au moment de l'association Yann Huss, qui était présidée par Jacques Derrida et par Jean-Pierre Vernant, et organiser par mon truchement l'accueil d'intellectuels français qui venaient en République tchèque donner des cours dans des séminaires privés chez Aïda Hanek et chez d'autres aussi, chez les philosophes en fait, chez le frère de Václav Havel, et puis d'autres. Non, je risquais pas grand-chose. Hein, et bon. Alors, donc, je m'occupais de cette association, c'est-à-dire que j'étais un peu le point de contact en République tchèque. Donc j'accueillais ces intellectuels. La barrière venait dormir chez moi. Et ensuite, je l'emmenais dans les séminaires. il y avait Pierre-Jean Lavarielle, il y avait André Comte-Sponville, il y a eu toutes sortes de gens, Jean-Claude Esselin, beaucoup de gens de la revue Esprit. Vous voyez un peu toute cette mouvance, en fait, venait aider les intellectuels tchèques qui n'avaient aucun contact avec les intellectuels occidentaux. Ça, c'était quelque chose d'assez important. La scène culturelle était assez vivace, mais les intellectuels tchèques étaient assez isolés. Hein. Contrairement aux intellectuels polonais qui avaient beaucoup, beaucoup de contacts avec l'étranger, notamment à travers les liens qu'ils avaient avec René Raymond et d'autres. L'Église, s'il y avait des contacts. Mais les intellectuels tchèques étaient un peu coupés du monde. Alors la branche anglaise de la CGNE était très active. La branche française, présidée par Derrida, était également active.
Comment ça se passait avec les autorités du régime? Parce qu'ils savaient très bien ce qui se passait. Comment il fallait négocier?
J'ai eu des difficultés à la frontière plusieurs fois. Oui. Quand je venais avec des livres. Parce que Pavel Tigride, qui s'occupait de Svietestvi, rue Croix des Petits Champs à Paris, me donnait des livres. J'avais à l'époque une vieille voiture, une guimbarde 504 Peugeot, et un gros coffre. Et donc régulièrement, je mettais les livres de Svietestvi, qui étaient des livres de samizdat en fait, hein, dans le coffre de la voiture, et j'emmenais les choses en République tchèque. Bon, j'ai eu des petites histoires là, mais bon, ça s'est toujours assez bien passé. Voilà.
Effectivement, des associations, notamment la section de jazz, oui, que vous connaissez bien, oui, m'ont raconté que l'ambassade de France les avait aidés
à... je pense que Xavier aussi a beaucoup travaillé avec la section de jazz, si je me souviens bien. Hein. Mais effectivement, on a fourni pas mal de livres, on a pas mal de samizdat à cette section, et on a un peu soutenu aussi, après la révolution de velours, en fait, l'association, oui, en organisant quelques expositions, si je me souviens bien.
Et des concerts avant la révolution de velours. On m'a parlé de concerts organisés à l'Institut français, mais plus ou moins en catimini, mais tout se savait par le bouche à oreille. Est-ce que vous avez des souvenirs d'événements comme ça?
Oui, il y a des événements comme ça, mais bon, c'était pas très... C'est pas des événements très importants. Hein. Mais oui, effectivement, ça a sans doute donné un petit signal. Non, moi, je me souviens de... J'étais peut-être un petit peu imprudent, hein, mais j'ai toujours voulu en fait rencontrer ces représentants de la société civile. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, sans bien sûr aller jusqu'à imaginer que la révolution de velours était pour 89. Hein. Je pense que j'avais pas forcément toujours bien pesé les risques qu'ils encouraient, qui étaient pas non plus énormes, mais on aurait pu être un peu emprisonné. Expulsé du pays, etc., sans doute. Mais j'avais l'impression d'être tellement... de faire partie de coller à la réalité. Quoi. Il y avait vraiment un climat extrêmement... Alors, j'ai dû deux ou trois fois manifester. Et là, c'était un peu plus dur. Là, on a pris des coups de... Mais c'était... Voilà, manifester, vous savez, avec la STB qui avait d'énormes tuyaux d'arrosage qui poussaient... Voilà, par curiosité, j'étais descendu plusieurs fois dans la rue et donc j'ai dû manifester, ce qui n'était pas tout à fait dans mon rôle, il faut dire les choses. Mais là, j'ai dû avoir un peu peur une ou deux fois, oui. Mais sinon, j'avais conscience qu'il se passait quand même quelque chose.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, toutes ces infos, vous le savez, vous pouvez les retrouver en podcast, mais également sous forme d'articles et puis en streaming sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.